Bienvenue à tous et à toutes, que vous soyez sur place à Undifour, en ligne ou même dans le futur grâce au podcast officiel du festival Historicité. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars et c'est le deuxième jour du festival Historicité. Deuxième jour à explorer ensemble le thème des invisibles. Invisibles, nous le sommes, mais néanmoins audibles sur les ondes de fréquence Bonhomme. Je profite également du thème et d'avoir le micro pour rappeler ou simplement vous apprendre que le 31 mars est la journée mondiale de la visibilité trans. Je suis accompagnée de Pierre et Stan à la technique. Nous avons également un super public, ça fait beaucoup de monde autour de cette table. Et au programme de l'émission, nous aurons d'abord Pierre qui va nous parler d'archives. Ensuite, nous aurons Alessia Loretan qui viendra nous parler du projet Sans Elle. Alexandra et Arnaud nous raconteront l'histoire d'une personne assez hors norme. Et Iggy nous parlera des euphémismes utilisés pour décrire les mots interdits. Avant ce joyeux programme, il me semble que Pierre, tu as pu apprécier une partie du festival hier soir, c'est bien ça ?
Oui, une partie du discours et de la conférence d'ouverture hier soir. Est-ce que tout fonctionne ? Oui. Et qui était donc une conférence de Marie-Hélène Patou-Matisse sur le problème du genre et des biais dans la recherche préhistorienne. Depuis le 19e siècle, donc évidemment une discipline massivement dominée par le genre masculin, et où elle essayait de remettre un peu en perspective et d'ouvrir en fait le champ des possibles en questionnant pourquoi est-ce que dans nos imaginaires, dans nos têtes, l'homme préhistorique est forcément déjà un homme, que celui qui pêche, qui chasse et qui peint est forcément un homme et qu'une femme est là uniquement pour être dans la grotte, parce qu'évidemment c'était bien connu qu'elle ne sortait pas et qu'elle ne sortait jamais de ces grottes. Et du coup, Madame Patou-Matisse a essayé de mettre un petit peu plus de clarté dans ces interrogations d'une brûlante actualité, pour ensuite être clôturée par une verrée ici même avec les différents intervenants du festival.
Très bien, alors j'espère que tu as pu profiter de ces moments-là.
Oui, complètement.
Pour rester avec toi, Pierre, il me semble que tu voulais nous parler d'archives, de numérisation et de Nations Unies. Qu'est-ce que c'est le point commun entre tout ça ?
Exactement. Je suis allé cet après-midi donc, à une table ronde organisée par les archives de la Société des Nations et aussi par les archivistes de l'ONU qui s'intitulait « Dévoiler les archives au temps du numérique ». Donc trois personnes autour de la table, donc Blandine Blucas-Louise Fer, Colin Wells et Christiane Sibyl, qui nous ont interrogés et qui nous ont parlé de quels étaient les défis et quelles étaient les opportunités pour les archives du numérique. Donc il faut savoir qu'ils ont numérisé l'ensemble du fonds de la Société des Nations, ça représente à peu près 3 km linéaires, ou plus communément 10 millions de pages qui ont été numérisées, qui sont entièrement accessibles sur le net, sur leur site internet. Et ils ont pu un petit peu nous développer, nous décrire quelles étaient les différentes étapes de la numérisation d'un fonds aussi énorme. Et ces trois étapes se résument par cette pré-numérisation, forcément, ça ne s'improvise pas. Il faut préparer les documents, enlever les agrafes, par exemple, et aussi créer des notices dans les bases de données. La numérisation en soi, évidemment, qui, elle, est fournie par un prestataire externe. Puis la post-numérisation, qui est le contrôle, évidemment, la création des données archivistique et surtout des métadonnées. La question avec donc deux archivistes autour de la table et une historienne qui était un petit peu, mais quelles étaient les opportunités ? Est-ce que ça permet juste de pouvoir accéder à ces archives depuis n'importe où, depuis son smartphone ? Pas tant que ça. Alors oui, évidemment, l'accès aux documents est facilité, la recherche est facilitée là-dedans. Et par contre, là où on commence à s'élever, c'est la connexion entre toutes ces métadonnées, les possibilités d'interopérabilité et aussi les nouvelles opportunités avec l'intelligence artificielle, la meilleure collaboration entre les historiens, les archivistes et les informaticiens pour tenter de créer une synergie. Toutes ces choses vont créer donc des couches de métadonnées, le document, une métadonnée par-dessus, puis encore une autre, puis encore une autre, qui vont ouvrir des nouvelles perspectives dans la recherche qui ne sont pas encore existantes. Donc évidemment, là, il y a une invitation à creuser pour tous les jeunes et jeunes chercheurs et chercheuses. Mais tout ceci induit aussi un changement de pratique profond, une augmentation de la fréquentation. Il parlait qu'il y avait, je crois, 150 chercheurs qui venaient avant par année. Et là, en l'espace de 3 mois, ils ont déjà eu 8000 visites sur le site. Donc on a une augmentation vraiment énorme de l'accessibilité de ces différents fonds et la nécessité d'avoir en face quand même toujours un archiviste humain, donc pas entièrement remplacé par la machine, heureusement. Pour les historiens, évidemment, un meilleur accès, plus besoin de se déplacer aux quatre coins du monde pour pouvoir accéder aux différents fonds d'archives, pour pouvoir mener ses recherches, de meilleures comparaisons entre les différentes archives, pour avoir directement les documents d'archives sous les yeux, et évidemment, une meilleure connectivité entre ces différents documents, et ce qui, évidemment, demande certaines compétences techniques, une certaine aisance à structurer les données, à les normaliser, et également à rendre sensible sur le fait que ce sont des données très fragiles. On a tendance à penser que le numérique peut permettre une pérennisation pérenne de nos documents. Évidemment, ce n'est qu'un vœu pieux. Évidemment, il existe des standards internationaux qui ne permettent pas de répondre aux défis que pose la numérisation. L'obsolescence des supports, les formats informatiques, comment est-ce que vous lisez un fichier Word que vous avez fait il y a 20 ans, et évidemment, réussir à assurer la fixité de ces données pour qu'on puisse toujours y accéder dans 20, 40, 100 ans ou que sais-je. C'est clairement la faiblesse de ces nouvelles perspectives archivistiques, sauf avec une avancée technologique, l'ADN, qui pourrait permettre de coder et d'enregistrer l'information et de permettre aux historiens de demain de continuer à y accéder. Ce qui m'amène à la question et à la fin de cette petite chronique, le contexte de création et de structuration de ces métadonnées qui va être de plus en plus important pour les historiens. On va de plus en plus s'éloigner du document, plus pour comprendre et prendre en compte le contexte de création de ce document. Avoir en tête les niveaux de description, savoir à quel niveau on se situe et puis comment on dialogue et on chemine entre ces différentes choses. La numérisation n'est que le début, il faut créer des liens, il faut casser aussi cette image d'épinal d'un archiviste misanthrope qui n'aime pas les humains et qui est perdu au fin fond de sa cave. Le métier se transforme mais ne va pas disparaître. Renforcer la collaboration entre les historiens, les archivistes et les informaticiens tout en étant prêt à avoir une complexification de son propre métier et aussi une technologie toujours plus omniprésente.
Merci beaucoup pour ces informations, Pierre. En effet, je pense que personne ici n'était au courant que le métier d'archiviste était autant en évolution. Et bien maintenant, parmi nous, nous accueillons Alessia Loretan, qui vient nous parler de Sans Elle. Alors, ce n'est qu'en voyant écrit le nom que j'ai compris le jeu de mots entre sans le chiffre et sans l'absence. Le projet était à la base de nommer des rues avec des noms de femmes ayant marqué l'histoire. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler plus spécifiquement de votre exposition qui se tient actuellement à Unis-Dufour. Merci d'être venu.
Merci de m'avoir invité.
Alors, prenons l'histoire par le début. Comment a débuté le projet Sans Elle ?
Alors, il a commencé en 2018. On a fait un constat assez basique, finalement, dans les rues de Genève. On a remarqué que principalement, les rues qui portaient le nom d'une personne portaient le nom d'une personne de genre masculin. Donc, on s'est intéressé un peu plus aux chiffres. Donc, sur plus de 500 rues qui portent des noms de personnes, seulement 7% portent des noms de femmes. Et donc c'est un peu là la jeunesse du projet. Ensuite, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait apporter notre petite pierre à l'édifice, faire réfléchir en fait la population, sensibiliser les pouvoirs publics. Et du coup, on a approché la ville et puis c'est comme ça qu'on a eu l'idée de proposer des plaques de rue alternatives, donc de couleur violette, et de les poser dans la ville pour montrer qu'en fait, ça aurait pu être une femme qui aurait donné son nom à cette rue.
Alors juste pour resituer un petit peu, combien est-ce que vous êtes dans votre équipe et de quels horizons est-ce que vous venez ?
Alors l'escouade, c'est entre 10 et 15 bénévoles. On est toutes de genre féminin. On est principalement... Alors quand on a commencé, on était principalement toutes étudiantes à l'université. Maintenant, c'est vrai qu'on a... On a toutes suivi un peu notre bout de chemin, donc certaines personnes sont parties, certaines personnes sont arrivées, mais globalement ça reste un milieu plutôt éduqué, plutôt blanc, même si c'est pas entièrement féminin, entièrement.
Très bien. Alors, je me demandais quels sont généralement les retours que vous recevez par rapport à cette action. Est-ce que les personnes sont plutôt soutenantes dans votre démarche ou est-ce qu'au contraire vous avez dû faire face à des réserves ?
Alors, au niveau du projet avec les plaques de rue violettes, ça s'est plutôt bien passé. En fait, il y a eu un peu des critiques, bien évidemment, de ça sert à rien. Il y a des causes plus importantes, mais en fait, finalement, rien que de voir que ça énerve les gens, en fait, c'est déjà qu'il y a quelque chose à creuser là-dessous. Ça a commencé à plus... a suscité des réactions plus négatives quand la ville, de son côté, a décidé de renommer des rues. Donc là, il y a un lien assez fort qui a été fait entre notre projet et cette action de la ville, lien qui existe. Hein. Mais là, il y a eu des réactions plus négatives avec des actes de vandalisme, avec aussi des prises à partie un peu plus violentes, voire injurieuses. Mais sinon, globalement, ça se passe assez bien.
Je suis contente de savoir que la majorité du temps, ça se passe bien. D'ailleurs, ça a donné un livre, c'est bien ça ?
Oui, exactement. On s'est dit que... En fait, les 100 femmes sélectionnées, ça a été un gros travail qui a été fait avec des historiennes de l'Université de Genève qui nous ont pas seulement aidé, en collaboration étroite, à créer cette liste de 100 femmes, mais elles ont également écrit des biographies et on les a mises à disposition sur le site internet du projet. Et comme ces plaques étaient censées être enlevées en fait en 2020, on trouvait ça, et finalement ce n'est pas le cas, mais on trouvait ça dommage que le projet s'arrête là et de perdre tout ce travail, tout ce qui avait été créé. Et puis c'était une façon de pérenniser un peu le projet à travers un ouvrage qu'on voulait joli aussi, avec des illustrations.
Alors pour revenir à Unis du Four, pour les auditeurs qui ne sont pas ici et qui ne peuvent pas voir, qu'est-ce qui est, bien plutôt, qui est-ce qui est à l'exposition que vous avez créée à l'occasion du festival Histoire et Cité ?
Alors en fait, il y a eu une sélection qui s'est voulue un peu la plus représentative possible, parce qu'on ne pouvait pas présenter les 100 femmes choisies dans le projet. Donc il y en a 36 qui ont été sélectionnées et en fait l'exposition présente les illustrations, les portraits qui ont été faits de ces femmes par des illustratrices alumni de la Aide en fait, avec qui on a collaboré sur ce projet de recueil, et à côté la biographie écrite par des historiens de l'Université de Genève. Donc c'était pour mettre en avant encore plus.
Ça n'a pas été trop difficile de faire un choix de passer de 100 à 36 personnes?
C'était déjà dur d'en choisir 100, donc vous imaginez encore plus d'en choisir 36. Après voilà, c'est les contraintes qui existent, on a essayé d'être le plus juste possible, et voilà.
Alors je vais peut-être vous demander de spoiler un petit peu l'exposition, mais est-ce que vous auriez une personnalité en particulier qui vous a touché et que vous auriez envie de nous faire découvrir en quelques mots?
Alors...
On passe de 100 à 36 et maintenant à 1.
Mais en fait, c'est un exercice qui est vraiment tout à fait impossible, ce que vous me demandez. Non, mais parce que, pour plusieurs raisons, déjà parce que, en fait, la sélection, elle est hyper variée. Donc ça va vraiment du 5e siècle à l'époque contemporaine. Il y a des femmes... Il y a des artistes, il y a des politiciennes, il y a des femmes de droite, il y a des militantes, il y a des femmes dont on ne connaît pas le nom de famille. Il y a des, voilà, donc c'est vraiment difficile de faire un choix parce que il y a une forme d'injustice aussi par rapport aux autres. Puis en fait, là finalement, c'est moins l'association, c'est moins tout le projet qui parle plutôt que les sensibilités de chacune. Donc non, je vous laisse les découvrir.
Alors, on les découvrira tous ensemble, les 36. Jusqu'à où vous êtes remontés dans le passé pour retrouver des personnalités historiques ?
Alors la plus ancienne, c'est Théodelinde, qui est une reine burgonde, et dont la plaque alternative, la plaque violette, se situe en vieille ville. Voilà, donc elle date du 5e siècle. Et... voilà.
Et qu'est-ce qu'elle avait fait ?
Ça, je sais plus. C'est une reine burgonde.
Donc non, quelqu'un forcément d'important de base.
Ouais. Alors après, je suis pas du tout la meilleure placée pour en parler. Je suis pas du tout historienne de formation. J'ai pas du tout rédigé les biographies. Mais c'est vrai que de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu lire, plus ça remonte loin. En fait, moins il y a forcément des sources, ou alors moins elles sont attachées à ce que la femme a fait. Et plus ça, par exemple, le fait que la personne qui vient du plus loin finalement, qui a vécu au 5e siècle, soit une reine, c'est pas anodin non plus. On a une trace d'elle parce qu'elle avait un rang social très élevé. Et voilà.
Est-ce que vous continuez d'entretenir cette base avec des personnes actuelles aussi ?
Non, Il n'y a pas de travail qui est... On ne continue pas. Pour nous, la liste des 100, c'était un projet à un moment T. On en a choisi 100. De toute façon, il y en avait bien plus et il y en aura bien plus tout le temps. Il faut aussi savoir qu'une des contraintes, c'était que les 100 femmes répondent aux critères de nomination des rues officielles de la ville de Genève. Et pour ça, il faut avoir marqué la ville de Genève de manière pérenne et être décédé depuis plus de 10 ans.
D'accord, on ne peut pas avoir une rue, être vivant et avoir une rue à son nom.
Normalement pas, selon les règles de nomenclature.
Ok, très bien. Merci beaucoup alors pour être venu. Est-ce que vous avez un message à faire passer avant de passer à la suite ?
Venez voir l'expo, c'est vraiment dans le hall. Et puis c'est très bien fait. Voilà.
Je suis passée avant, en tout cas, c'est très joli, je recommande. Et probablement très intéressant aussi. Alors maintenant... Merci beaucoup pour un public réactif et puis enflammé. On va rester dans un sujet, il me semble, assez proche, avec Alexandra et Arnaud, qui sont deux étudiants et étudiantes en histoire à Genève. Et aussi, vous avez un parcours hors du commun à nous partager.
Oui, on va parler d'Isabelle Eberhardt aujourd'hui.
Oui. Et elle se fit nomade. Si vous passez par la gare Cornavin, vous avez peut-être croisé ces mots peints en grand caractère noir sur un mur aux côtés des grottes. Si vous les avez lus, vous vous demandez peut-être qui est ce « elle ». Eh bien, il s'agit en effet d'Isabelle Eberhardt, qui est née à Genève dans le quartier des grottes à la fin du 19e siècle, près d'une rue qui porte d'ailleurs maintenant son nom. Donc là, il y a des chances que vous ne sachiez toujours pas qui c'est. Donc Isabelle Eberhardt, c'est une journaliste, une aventurière pionnière du récit de voyage, mais avant tout une amoureuse du désert. À 20 ans, elle quitte Genève pour le Sahara algérien. Ce qu'elle voulait, c'était de vivre libre et nomade, loin du monde. Ou, comme le dit la peinture murale des grottes, qui le dit mieux, et elle se fit nomade de sa mélancolie, de sa liberté, de son écriture, de ses voyages, de ses noms, mais aussi dans le désert, à l'éclatante aurore, son infini galop. Vous l'aurez compris, c'est à Isabelle Eberhardt qu'on va s'intéresser maintenant, en compagnie d'Arnaud.
Hello.
Qui nous a apporté quelques extraits de ses récits du désert.
Tout à fait. Avant ça, remontons un peu dans le temps. Isabelle Eberhardt naît en 1877 d'une mère d'origine russe et d'un père inconnu. Elle apprend grâce à son précepteur, qu'on suspecte d'être son père, 5 langues qui la lancent dès son plus jeune âge à la découverte d'autres cultures. Par la suite, elle apprendra l'arabe en bonne partie d'elle-même. C'est une jeune femme élevée à la dure. Elle ne peut par exemple pas se balader seule dans la rue.
Ouais, vu son caractère indépendant, on peut supposer que ça a dû être insupportable pour elle de ne pas sortir seule.
Absolument, et c'est sans doute pour ça qu'elle choisit l'écriture comme échappatoire. Elle se montre très vite fascinée par l'Orient. Elle écrit déjà, à Genève, des écrits dont l'action se déroule dans des paysages du Maghreb.
Et elle signe d'ailleurs ses livres d'un nom d'homme.
Oui, elle est depuis son enfance ce qu'on appelle des fois un garçon manqué. Déjà à Genève, elle signe parfois ses écrits d'un nom masculin et sort dans la rue habillée en homme. Cette double identité s'amplifie lorsqu'elle arrive en Algérie. Elle parcourt la ville et le désert en vêtements d'homme et prend le pseudonyme de Mahmoud Saïdi. C'est peut-être en cela que l'on peut trouver en Isabelle Eberhardt une figure de l'invisible. Sa pierre tombale portera même jusqu'aujourd'hui un nom masculin d'emprunt.
Donc précisons qu'avant d'être exploratrice du désert, Isabelle Eberhardt est écrivaine. Donc elle a écrit au cours de sa vie, qui est assez brève, qu'elle est morte à 27 ans, plus de 2000 pages. Donc c'est énorme, on va pas tout lire maintenant, mais Arnaud, tu nous as apporté un extrait qui est intéressant, tiré de ses récits de voyage. Donc on va le lire et se demander en quoi Isabelle Eberhardt est une figure de l'invisible.
Oui, j'ai choisi un extrait de son texte « Au pays des sables » qui a été édité la première fois en 1925 sous le titre « Contes et souvenirs » et qui rassemble différents moments vécus par elle, des notes écrites sur le vif. Et dans lesquelles elle retranscrit ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent pendant ses voyages dans des paysages désertiques.
Et donc une description du désert. Il est des heures à part, des instants très mystérieusement privilégiés, où certaines contrées nous révèlent, en une intuition subite, leur âme, en quelque sorte leur essence propre, où nous en concevons une vision juste, unique, et que des mois d'études patientes ne seraient plus ni complétées, ni même modifiées. Cependant, en ces instants furtifs, les détails nous échappent nécessairement et nous ne saurions apercevoir que l'ensemble des choses. État particulier de notre âme ou aspect spécial des lieux, saisi au passage et toujours inconsciemment, je ne sais. Étagée sur les versants méridionaux d'une dune, El Oued, l'étrange cité aux innombrables petites coupoles rondes changeait lentement de teinte. Les ombres des choses s'allongeaient démesurément, se déformaient et pâlissaient sur le sol, devenues d'une couleur indéfinissable. Jamais, en aucune contrée de la terre, je n'ai vu le soir se parer d'aussi magique splendeur. Et toujours encore, pendant toutes ces métamorphoses, pendant toute cette grande féerie des choses, pas un être, pas un son. Donc, vu cet extrait, vraiment magnifique, la description du paysage des dunes, est-ce que c'est juste de dire qu'Isabelle Berhardt écrit de la poésie ? Est-ce que c'est une poétesse ?
Alors c'est assez particulier parce qu'elle écrit exactement ce qu'elle voit, ce qui est sous ses yeux. Donc on peut des fois se demander si ce qu'elle écrit n'est pas simplement du reportage, sachant aussi qu'elle a été une grande partie de sa vie journaliste. Et alors finalement, en fait, je vais vous répondre subjectivement parce que je pense que la poésie ne peut pas être, enfin, on peut pas trouver de réponse, de donner de réponse autrement. Oui, en vertu du lyrisme, de ses impressions, de la liberté de ses images, je dirais qu'elle est la poétesse du désert, du voyage et de l'invisible.
Donc on peut aller jusqu'à parler d'une poétique du voyage.
Tout à fait, étant donné que sa démarche est contemplative autant qu'introspective. Elle essaie journellement de retranscrire ses impressions de voyage. On trouve dans sa poétique toute la spontanéité de Rimbaud, par exemple, qui a écrit un peu avant elle, mais pas aussi... Enfin bref. Et en fait, elle écrit en fait au gré de ses impressions, comme les paysages viennent sous ses yeux. Et alors, on peut se demander justement si sa poétique n'est pas une poétique du désert, puisque dans sa façon d'en parler, elle a l'air de le concevoir comme un être vivant. Elle dit dans l'extrait qu'on a lu : jamais, en aucune contrée de la terre, je n'avais vu le soir se parer de si magique splendeur. Elle dit aussi un peu plus loin, où certaines contrées nous révèlent en une intuition subite leur âme. Alors que elle dit aussi un tout petit peu plus loin, et toujours encore pendant toutes ces métamorphoses, pendant toute cette grande féerie des choses, pas un être, pas un son. Donc ici on peut se demander, parce que justement on a l'impression qu'elle en parle comme quelque chose de mort. Mais lui attribue à d'autres endroits des caractéristiques tout à fait humaines.
Mmh. Donc c'est clairement une poétesse du désert, mais c'est aussi et surtout une poésie de l'invisible, ce qui nous intéresse aujourd'hui aussi.
Tout à fait. Elle dit, juste dans l'extrait qu'on a lu juste avant, « Les détails nous échappent nécessairement et nous ne saurions apercevoir que l'ensemble des choses. » Ce qui la pousse peut-être à écrire, c'est le fait que ce qui lui échappe, ce qu'elle ne voit pas, lui apparaît souvent au moyen de l'écriture. C'est ce qu'elle semble dire lorsqu'elle écrit « État particulier de notre âme ou aspect spécial des lieux saisis au passage et toujours inconsciemment ». Finalement, son invisibilité est peut-être le prix de sa liberté.
Ah oui, c'est sûr, parce qu'on rappelle qu'elle devait se balader dans le désert habillée en homme, pour pouvoir se déplacer librement, donc... Son invisibilité était peut-être le prix, effectivement, de sa liberté. Donc, on va finir sur quelques mots qu'a écrit Isabelle Eberhardt, quand même, lorsqu'elle était seule au milieu des dunes du Sahara. « Je dois isoler mon âme de tout contact humain, créer un nid solitaire au fond du désert, un endroit où je pourrai enfin être. » Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ces petits mots très, très inspirants, très beaux et très envoûtants. C'était très bien en tout cas. Et en parlant de mots inspirants et de mots intéressants, voire même de petits mots interdits, il me semble que Iggy, tu nous as préparé quelque chose à ce propos.
Oui, voilà, donc bonjour. Effectivement, je comptais revenir aujourd'hui sur un petit peu les tabous. Et on avait parlé d'euphémisme et on va aussi parler de périphrase. On va parler en fait de comment détourner le tabou pour pouvoir parler de certaines choses. Alors, tout ça pour revenir à la notion de tabou. Donc, comme je l'ai dit, on va parler de périphrase et d'euphémisme qui essayent d'atteindre le sujet du tabou et ainsi d'exprimer ce qui est inexprimable et de le rendre acceptable, de le rendre un peu plus poli, Donc là, je prends vraiment poli au sens étymologique, donc vraiment lisse, et éviter de ne trop marquer la chose. Un exemple qu'on pourrait avoir de ce processus, c'est par exemple les locutions du style « il nous a quittés » pour parler de quelqu'un qui est mort. Parce que la mort est une réalité peut-être un peu trop brutale à prendre comme ça de prime abord, eh bien en fait, on va utiliser cette locution un peu détournée, qui atténue les choses. C'est un processus qu'on observe dans beaucoup, beaucoup de cultures très différentes et qui est à la fois aussi transhistorique. Donc on l'observait à plein d'époques différentes. Alors du coup, là, j'ai un petit jeu du coup, pour vous qui sera que je vais donner des citations historiques. Et il y aura un mot dans cette citation. Il faudra comprendre quelle est la réalité que désigne ce mot. Alors là, ma première citation, c'est une citation d'Auguste Barbier qui a écrit dans la Revue des Deux Mondes en 1865. La date est peut-être importante, je ne sais pas. Friné, riche du bien de plus de 20 amants, et le cou ruisselant d'or et de diamants, s'irrite à tout propos du luxe des lorettes et demande un décret qui borne leurs toilettes. Donc, là, je vous pose la question, qu'est-ce que c'est les lorettes dont parle Auguste Barbier?
Attends, c'est à quel moment, déjà? Je me suis perdu dans la citation.
Les lorettes.
Oui, mais c'était à quel moment dans la...
Alors, je vous le relis. Et le cou ruisselant d'or et de diamants, parle de Friné, s'irrite à tout propos du luxe des lorettes. Qui sont ces lorettes?
Les toilettes?
Ouais, peut-être.
Eh bien, pas du tout. Les lorettes, ce sont des prostituées. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas un type de prostituée qui est, on va dire, un peu classique. Les lorettes, en fait, leur nom vient de Notre-Dame de Lorette, une église qui est située dans le 9e arrondissement de Paris. Parce qu'en fait, c'est une zone de Paris qui va beaucoup, beaucoup se développer au 19e siècle. Et qui va du coup beaucoup s'urbaniser, et avec urbanisation vient évidemment plein de populations, qui dit plein de populations dit également venue de prostituées, etc. Car c'est une réalité qui a toujours fait partie des villes, des villes en Europe. Et du coup, en fait, elles ont pris le nom en fait, de l'église qui était à côté, parce que soi-disant, elles logeaient derrière cette église. Alors c'est une prostituée qui va être plutôt aisée, qui va être plutôt qui va être plutôt assez chère et qui va être plutôt pris, qui va plutôt chercher une clientèle qui est aisée. On va les appeler plus tard les filles d'opéra ou également les camélias. Et c'est quelque chose qui va, mais le terme va vraiment trouver son importance plutôt dans les années 1830-1836. Et du coup c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi au niveau de la prostitution. C'est que les prostituées et la prostitution vont vraiment être le florilège de termes qui vont essayer de les désigner sans vraiment en parler. On va avoir plein de mots détournés pour parler justement filles de joie, etc. Donc c'est vraiment une belle collection à mots euphémistiques. Je ne sais pas si le terme se dit peut-être. Donc voilà. Alors, j'ai une seconde citation. Celle-ci, elle est tirée d'un ouvrage de Samuel Auguste Tissot, dont je vais taire le nom, parce que sinon, vous allez tout de suite le trouver, je pense, et qui date de 1760. D'ailleurs, je pense que s'il y a des gens qui ont la référence de qui est Samuel Auguste Tissot, peut-être qu'ils ont, qu'ils sauront la réponse. J'ai toujours trouvé plus de facilité à guérir ceux qui se sont épuisés par des grands excès en peu de temps, dans l'âge fait, que ceux qui se sont épuisés à la longue par des pollutions, plus rares, mais commencées dans la première jeunesse, qui ont empêché leur accroissement et ne leur ont jamais laissé acquérir toute leur force. Qu'est-ce que ce sont ces pollutions qui affectent les jeunes ?
Des lectures controversées, peut-être ?
Il y a une idée. Ouais, je sais que là-bas, ils le savent déjà. Eh bien, les pollutions...
Les drogues.
Pas du tout, okay. Mais il y a une idée. En fait, les pollutions,
ça peut être que dans le public, quelqu'un a une idée.
Oui. Est-ce que quelqu'un a une idée dans le public?
A une folle envie de venir s'approcher d'un micro...
Je peux dire des gros mots.
Des quoi? Des gros mots? Tu peux dire des gros mots.
J'ai dit prostituée, ça.
C'est la branlette.
Eh bien, c'est très juste, jeune madame. C'est j'allais dire la masturbation, branlette, ça va aussi. Mais alors du coup, effectivement, la pollution, et les pollutions, on utilise souvent le pluriel dans ce cas-là, c'est la pratique masturbatoire. Et justement, l'ouvrage d'Auguste Tissot, c'est onanisme. Et donc ça parle également, on parle aussi du péché de Onan, qui est une référence biblique où en fait un personnage de la Bible aurait refusé un accouplement et aurait gaspillé sa semence. Alors ce qui est intéressant avec le terme de pollution, parce que j'ai fait un peu des recherches sur ce mot, c'est que le terme de pollution pour parler de la pratique masturbatoire et plutôt du gâchis de sperme, en fait c'est un terme qui existe déjà dès le 14e siècle. Donc c'est un très très vieux terme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIe siècle, ça va aussi désigner la profanation de temples et le fait que les temples sont salis. Mais le sens de pollution qu'on a aujourd'hui, qui est de gaspillage dans la nature, de dégrader la nature, en fait, l'environnement, en fait, ça apparaît qu'au XIXe siècle. Donc c'est très très tard.
Donc c'est le premier sens en fait de la branlette.
Exactement, c'est pollution, c'est le terme qu'on va utiliser. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que Tissot il écrit en 1760, ce qui est très tard. Et donc pollution était probablement un terme qui était désuet. Et donc ça c'est aussi une autre manière de féminiser, c'est d'utiliser un terme qui est trop vieux, un terme que les gens ne connaissent presque plus ou qui se dit plus vraiment, qui est utilisé par les personnes âgées, on va dire. Même si bon là, 14e siècle, il y a plus personne qui était âgé. Et du coup, ça permet de masquer cette réalité. Peut-être petit retour aussi sur l'ouvrage de Tissot, qui est Onanisme. En fait, c'est un ouvrage qui va avoir un extrêmement grand rayonnement durant tout le 18e, 19e et même 20e siècle, parce que sa dernière édition, c'est en 1905, donc c'est très très tard. Il va y avoir 63 éditions, donc entre 1760 et 1905, ce qui est énorme. Il va être diffusé très très largement. C'est un ouvrage de médecine qui va être vraiment central. Et il revient sur en fait les risques liés à la masturbation. Et du coup, il parle de risques de fièvre, de vieillissement, de dessèchement de corps, de maladies, etc.
Alors, est-ce que tu as une troisième à nous proposer ou est-ce que...
Non, je vais simplement conclure très là-dessus. Bien. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais pu allonger la liste, parce que c'est vrai qu'il y en a énormément de ces termes-là. Comme je l'ai dit, c'est à la fois transhistorique et transnational, c'est une réalité qui existe pratiquement partout. Et on sent du coup qu'il y a vraiment ce besoin de masquer ce qui est licencieux dans le tabou et de pouvoir arriver à détourner les termes. Mais, en fait, par ce procédé, il y a un paradoxe qui se crée. Parce que, à force d'utiliser de manière répétée un mot pour qu'il cache une certaine réalité, eh bien finalement, il ne finit que par désigner cette réalité première. Et tout de suite, quand on en parle, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Si par exemple, je vous parle des bijoux de famille, je pense que dans votre tête, le premier truc qui apparaît, ce n'est pas une collection de bijoux précieux dans une petite boîte qu'on se transmet de génération en génération. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, ça provoque une espèce de vulgarisation de la langue précieuse. Et également d'une fuite en avant pour toujours à chaque fois retrouver des nouveaux termes pour pouvoir à nouveau cacher ces tabous. Donc voilà.
Très bien, merci beaucoup. Alors je vous proposais de conclure avec un autre petit quiz si vous êtes toujours aussi motivés et aussi prêts et aussi présents. Ce serait de vous poser la question, parmi ces inventions célèbres qui nous sont encore utiles dans la vie de tous les jours, lesquelles ont été inventées par les femmes ? Parce qu'on a l'impression que les femmes ingénieures et les femmes inventrices, c'est quelque chose qui date du XXIe siècle et que c'est très récent, alors que non, beaucoup d'inventions de notre quotidien sont en fait très anciennes et féminines. Alors, est-ce que tout le monde autour de la pièce, de la table est prêt, est parti, est motivé ? Parfait,
oui.
Je vois des yeux.
Tout à fait.
Tout va bien. Alors, entre la ceinture de sécurité et les essuie-glaces, lequel des deux a été inventé par une femme ?
Je dirais la ceinture de sécurité, là, comme ça.
Alors, oui.
Les essuie-glaces.
Je ne sais pas, on est plus dans le caire ou le nettoyage. Ouais. C'est très sexiste.
Voilà, c'est ça, vous n'avez pas grand-chose sur vous baser sur celui-ci.
Je vais tenter les essuie-glaces parce qu'il y a eu une ceinture de sécurité là-bas. Et
puis... À part que la ceinture, normalement, c'est peut-être plus un truc... On parle souvent de choses en dessous de la ceinture, donc pour moi, ce serait peut-être un truc un petit peu plus masculin.
Vous n'avez rien de tangible ou de concret pour vous baser dessus.
Je dirais essuie-glaces pour avoir.
Attendez, j'ai une hypothèse. Parce que la ceinture a été très difficile à imposer. Est-ce que ça n'a pas été inventé par une femme, du coup?
Ah.
Ah.
Mais comme ça a été pensé, apparemment, sur les... Enfin, vachement basé sur les corps des hommes, en fait, je me dis que peut-être c'est... Ça a été pensé directement sur des hommes parce que ça a été inventé par un homme.
Non, pour le coup, c'était les essuie-glaces qui ont été inventés par Mary Anderson, qui voulait juste améliorer en fait la sécurité du trafic, car des accidents étaient causés par des orages. Seulement, à l'époque, son invention a été déclarée comme inutile et coûteuse pour pas grand-chose. Mais aujourd'hui, on estime que les essuie-glaces sauvent chaque année des centaines de vies. Maintenant, bon, je me pardonnerai celui-là. Lave-linge ou lave-vaisselle. Voilà, je veux dire, j'ai pas pensé avant, je viens de le lire, je me dis peut-être que j'aurais pas dû le mettre. Mais...
Est-ce qu'on a le droit de répondre les Alors, deux.
Voilà, essayez de pas être trop sexiste, voilà, ouais, on limite. C'est quand même une belle invention qui nous sert tous les jours et que moi j'affectionne beaucoup.
Ah, moi je pense que c'est le lave-linge parce que c'était souvent les femmes qui faisaient la lessive au bord des rues et je pense que les hommes ça les dérangeait pas quoi.
Ouais, mais elle faisait aussi la vaisselle.
Ouais, je pense comme toi, je pense que c'est le lave-linge qui a été inventé par les femmes parce que le lave-vaisselle, c'est plus quelque chose qu'un homme aurait inventé pour faire plaisir à... Pour plus avoir... Enfin, je vois plutôt comme ça.
Alors, c'était le lave-vaisselle qui a été inventé par Josephine Corran. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça que ça se prononce. Le prochain, la programmation informatique ou... La technologie sans fil, l'ancêtre du Wi-Fi.
Peut-être la programmation, parce qu'il y avait beaucoup de femmes, je crois, dans l'administration, des choses techniques comme ça.
Moi, j'ai la réponse, donc je dis pas.
Les autres ?
Je dirais la programmation. J'ai un souvenir d'une photo, d'une...
Ouais.
Je dirais aussi ça, ouais, parce que j'ai strictement aucune idée. Mais...
Tu nous suis, c'est bien.
Alors, je suis quelqu'un de profondément mauvais et une grande menteuse, puisque les deux ont été inventés par des femmes.
Donc c'était possible.
Et d'ailleurs, pour un petit mot sur Hedy Lamarr, qui est l'inventeuse de la technologie sans fil, autrement l'ancêtre du Wi-Fi, était également une actrice hollywoodienne qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, s'est reconvertie comme ingénieure. Et à la base, c'est elle qui a fait découvrir comment guider les missiles à distance. Aujourd'hui, on espère que ce n'est pas forcément le meilleur souvenir de cette invention, mais plutôt celle qui nous sert à utiliser nos téléphones. Oui.
Ouais, on va peut-être pas la remercier exactement pour ça, exactement.
Oui, mais c'est grâce à elle qu'on peut faire cette chronique, parce qu'on utilise le réseau Wi-Fi de l'Université de Genève. Merci l'Université de Genève et merci Hedy. Et pour finir, tampon ou coupe menstruelle ?
Je dirais coupe menstruelle. Je crois que les tampons ont été inventés par un homme. J'ai le souvenir d'avoir entendu ça.
Moi je pense coupe menstruelle parce que je vois pas. Ça me ferait extrêmement rire d'imaginer un homme concevoir ça.
Alors effectivement c'était bien la coupe menstruelle qui a été inventée mais a été boudée à ses départs parce que c'était considéré comme malpropre et trop difficile d'utilisation avant de revenir sous le feu des projecteurs très récemment. Très bien, alors merci beaucoup de vous être pris au jeu à ce petit quiz.
Merci.
Et pris au jeu au quiz d'avant de Iggy. Toujours agréable d'être rythmé par des applaudissements. Alors je pense que merci beaucoup à tout le monde d'être venu aujourd'hui nous parler de ces différents sujets. On va conclure maintenant avec le programme de demain. Du coup, demain à 12h15, vous pourrez retrouver une table ronde sur la nomisation des lieux en U600. Et également un histoire des imprimés pornographiques à travers la collection de Michel Froidevaux au Café de l'Histoire. À 14h30, il y aura une conférence de Corinne Amacher sur l'émancipation des femmes en Russie durant la Révolution, avec également un atelier sur les témoignages des incarcérés en U408, mais c'est uniquement sur inscription. À 17h30, vous aurez un flash conférence sur l'intimité de la guerre avec plusieurs intervenants et intervenantes, Raphaël Ballu, Laure Humbert, Guillaume Piketty, Bertrand Taïté, Clémentine Vidal-Naquet et Antoine Fenerweid. À 19h, table ronde autour des archives de l'ATS animée par Laurent Huguenin-L et également le livre en scène, Le droit au sol en U206. À 20h, pour finir, projection du film On the Bowery sur les classes défavorisées des bas-fonds de New York. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont écoutés et merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues. Nous nous retrouvons demain à Uni du Four à 17h. Bonne soirée.
plus.